Vous suivez l'économie sur Europe 1 ? Découvrez L'Envol, le nouveau podcast produit par Europe 1 Studio, où des entrepreneurs viennent raconter comment ils ont changé de vie. Anne-Laure travaillait dans la com, Thomas était consultant. Ils ont créé leur propre entreprise et donné un nouveau sens à leur carrière. Découvrez un premier épisode de cette série originale aujourd'hui, et pour écouter la suite, abonnez-vous au podcast L'Envol sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée.
Ma première console, c'était un Atari VCS 2600, évidemment. Mais voilà, j'ai été dès le début passionné, direct, boum, voilà, c'était ça, et puis pas autre chose. En jeu vidéo, tu peux être mauvais 15 fois, c'est pas grave. On est là pour se marrer, il n'y a pas un prof qui fait « dis donc, t'es pas un peu idiot, toi ?» Non, c'est bon, c'est pas grave.
Camille a presque 50 ans, et je vous rassure, il est toujours dingue de jeux vidéo. Mais il a abandonné son rôle de patron de start-up à succès. Il a même tout plaqué pour se lancer dans le pain bio. Et vous allez voir, ce bon vivant a une façon très personnelle de parler de sa copine, la farine. Je m'appelle Adèle Gallet et j'ai cofondé une organisation qui aide des hommes et des femmes à mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, j'en ai observé des dizaines et des dizaines. Celui de Camille, il va vous donner envie de sortir de votre zone de confort. Bienvenue dans L'Envol.
J'ai eu la chance d'être né dans une famille avec plein de gens très intelligents qui avaient fait plein de choses bien de leur vie auparavant et qui ont donc mis beaucoup d'espoir dans leur progéniture. Ce qui fait que, effectivement, j'ai été assez vite éduqué dans des bonnes écoles. On essayait de voir si j'étais le plus fort possible dans différentes matières. J'ai voulu donc être très fort dans plein d'endroits, avoir des concours, ça me plaisait bien. J'ai fait à peu près ce qu'on m'avait demandé de faire, en gros. C'est bon, je suis rentré majeur dans une bonne école de commerce avec des majuscules, une parisienne, c'était très bien. Tout le monde était très content. Premier boulot salarié, puis au bout de 2 ans, je monte ma première entreprise. Une entreprise pour faire des jeux vidéo sur les téléphones portables. Donc là, c'était en 97-98, donc à un moment où les téléphones portables, ça se réduisait à une ligne d'un écran LED noir et blanc. Donc pas d'image, pas de truc, évidemment pas de surface tactile ni quoi que ce soit. Donc au départ, en exagérant un petit peu, mais on allait mettre nos jeux au fer à souder dans les usines des fabricants de téléphones, et qui nous disaient un petit peu en nous mettant de côté, vous savez, on va pouvoir bientôt télécharger des trucs. Bon, on n'y est pas encore, mais c'est pas mal que vous soyez là dès maintenant, parce que l'avenir est assez sympa. C'est ce qui s'est passé pendant des années et des années. Au fur et à mesure que le secteur devenait intéressant, mon entreprise a grossi. Et puis ça s'est terminé par une levée de fonds de quasiment 9 et quelques millions d'euros, donc ce qui est absolument phénoménal, époustouflant, mais qui a eu un résultat totalement inverse de ce que je voulais, c'est-à-dire que ça a signé en quelque sorte l'arrêt de mort de notre entreprise en un an et demi. Ça s'est terminé en eau de boudin. Ça ne me posait pas de souci d'avoir des gens qui s'occupaient de la finance, d'un certain nombre de trucs. Mais par contre, la création, qu'on me laisse tranquille, je sais de quoi je parle. Et donc, effectivement, le fait d'avoir des gens qui n'y connaissaient absolument rien, qui jouaient en plus avec l'argent des autres, m'expliquaient ce que je devais faire en termes de choix, de type de jeu. Évidemment, les jeux qu'ils voulaient que je fasse devaient coûter pas très cher, être faits par des Chinois. Et moi, les jeux que je voulais faire devaient être un peu malins, utiliser les médias, jouer un petit peu d'un certain nombre de codes. Et puis, évidemment, tout faire en France avec des gens bien payés et heureux. Parce que c'est à ça que ça sert d'avoir un boulot. Il y a eu quelques petits moments de friction. Il y a même eu un moment où j'ai sorti ma carte que je pensais maîtresse, qui était de dire « moi, président, ça n'aura pas lieu dans ma boîte ». Et les gars m'ont répondu « écoute, très bien, t'es plus président ». Et donc, je me suis fait virer par un gars que j'avais embauché des centaines de milliers d'euros par an 6 mois avant, qui lui-même s'est fait virer 3 mois après.
Aujourd'hui, Camille parle de tout ça avec le sourire. Mais à l'époque, c'est un choc de ne plus être le maître à bord. Alors, il se souvient que tous les vendredis, dans sa vie d'avant, lui, le patron, adorait aller en cuisine pour préparer à manger pour toutes ses équipes. Et il tente une nouvelle aventure.
Je me suis rendu compte que j'en avais marre du risque et que j'avais besoin à un moment donné de pouvoir faire un truc, de m'y mettre complètement, et que derrière j'ai une quasi-certitude de résultat, qu'il n'y ait pas 90% de risque extérieur qui fasse que même si t'es bon, ça peut se planter, ou même si t'es mauvais, ça peut réussir parce que t'as eu du bol. Je voulais avoir une réaction chimique, je mets un truc bleu, je mets un truc rouge, je veux que ça fasse pouf et que ça devienne violet. Or, de la farine et de l'eau, c'est génial pour ça. Vous mettez de la farine, vous mettez de l'eau, vous rajoutez un ferment, Au départ, c'est nul, mais ça existe, ça gonfle, ça fait un truc. Et j'avais besoin de ça. J'avais vraiment, je pense que j'étais mal. Et j'avais besoin de pouvoir faire une action qui aurait une réaction ou un résultat prévisible et rassurant. Après avoir passé 17 ans à dire à tous mes copains et à tous mes salariés, etc., rassurez-vous, c'est moi les épaules et je suis votre barrage entre la réalité et le truc canon qu'on est en train de faire ici. Ça a été ma fonction pendant 17 ans. Et puis il y a eu un moment où je me suis dit, je ne veux pas continuer pendant 15 ans comme ça. Je passe sous le boisseau le fait que, évidemment, d'un point de vue familial et d'un point de vue couple, tout ceci avait des conséquences et des choses qui faisaient que ce n'était pas du tout agréable pour ma femme, pour ma famille non plus, et que ça a tangué sérieusement aussi. Ça a fait partie aussi des choses qui m'ont permis de me dire, oulala, attention, tu penses pouvoir faire le rempart entre le monde extérieur et le monde intérieur, mais tu ramènes une quantité de stress du monde extérieur à la maison, tu ramènes une quantité de soucis qui pourrissent la vie de ceux qui t'aiment, et t'es pas à ce point-là une espèce de grand rempart vers les paquets de mer. Il y a plein de vagues qui rentrent et tout le monde est mouillé, tout le monde fait un grand sourire, genre super, mais en fait ils s'en prennent. Donc tout ceci a fait que aussi il y a eu un moment où je me suis dit que c'était pas dans le bon sens et qu'il fallait que je repense un petit peu ce que je voulais faire de ma vie et comment j'allais y arriver. J'avais quelques ordinateurs que j'avais préparés pour un nouveau projet. J'ai tout viré, j'ai gardé les tréteaux et tout de suite le pain m'a souri. Tout de suite la farine, ça a été ma copine. Tout de suite elle m'a dit vas-y, on va y arriver. Et j'ai commencé à faire ce truc-là. J'ai cherché pendant longtemps à essayer de savoir qu'est-ce qui faisait que ce pain était aussi bon. Alors que ce pain, ce qui m'amusait aussi, c'était qu'il était il contrevenait à l'intégralité des règles de base de la boulangerie. C'est-à-dire qu'il faisait toutes les conneries à pas faire en boulangerie et ça faisait un truc incroyable. Donc ça m'a bien plu, ça. J'aime bien faire des choses un peu différentes, un peu machin. Donc ça a commencé avec les voisins qui m'en prenaient un peu et tout, nanana.
Un beau matin, je le vois débarquer tout fringant, comme un feu follet. Moi, c'est Kevin Koval, je suis chef de cuisine et propriétaire. Et puis il me dit, tiens chef, j'ai un pain à te faire goûter, tu le prends, il est pour toi, et puis tu goûtes et tu me dis. Et puis il est reparti comme il est venu, aussi rapidement. Donc après, je suis venu à goûter. Et là, je suis tombé vraiment sous l'amour du pain, sous le charme français de cette tradition qu'on a, c'est le pain. Et là, c'est en goûtant le pain de Camille, on se rend compte que la plupart des autres pains qu'on achète dans les boulangeries, c'est pas du pain.
Et puis ensuite, j'ai arrêté et j'ai dit non, là, il faut que je me forme. Et donc là, je suis parti pendant un an à aller sur Internet, puis ensuite à aller rencontrer des gens, puis aller voir des paysans boulangers, les compagnons du devoir. Certaines personnes chez les compagnons du devoir m'ont bien aidé, m'ont bien aiguillé, m'ont posé les bonnes questions, m'ont fait me poser les bonnes questions, m'ont engueulé quand il fallait. Parce que j'étais un sale gosse, hein, vraiment. Être CEO pendant 17 ans, on a assez peu de contradictions. Donc ça rend con. Donc là au moins j'avais 45 ans, mal au dos, je faisais 600 bornes pour aller pas dormir de la nuit et puis refaire la même chose 3 nuits de suite et puis ensuite 3 jours d'école avec les enfants. Mais j'avais besoin de me faire mal, je pense aussi, en apprenant. Mais voilà, tout ça a fait qu'au fur et à mesure, je suis arrivé au pain comme une sorte d'évidence.
Et c'est le moment d'éloigner les oreilles sensibles parce que Camille a eu le meilleur prof du monde dans cette aventure, YouTube. Mais il n'a pas appris qu'à faire du pain.
Je pense aujourd'hui que à un moment, quand des gens sont en train de se poser la question de quel serait le nouveau type de métier qu'on pourrait réinventer, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce que je ferais après, est-ce si je me donnais un an pour ceux qui peuvent, etc. Internet est absolument génial pour pouvoir justement savoir comment font des gens absolument passionnés qui sont plein de talents, qui vont vouloir vous montrer comment ils font, des communautés derrière qui vont vous aider. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour apprendre à faire de la pizza napolitaine comme à Naples. C'est vrai pour apprendre à faire du pain. C'est vrai pour faire un mur. C'est vrai pour savoir faire un cunnilingus. J'avoue et je jure qu'il y a une vraie différence. C'est dingue. Et après, derrière, on s'améliore soit dans sa compétence personnelle, soit carrément on en fait un métier rentable. Donc sur les cunnilingus, je n'ai pas décidé d'en faire un métier rentable. Mais par contre, sur le pain, c'était le cas. Donc voilà, cette transition, elle a été vraiment très agréable. Passer de chef d'entreprise, avoir de la responsabilité de pas mal de personnes, à aujourd'hui être avant tout un homme, un peu papa, un peu mari, un peu boulanger, mais avant tout un homme.
Aujourd'hui, Camille fait du pain, mais pas n'importe lequel. Il a installé son fournil chez lui, il utilise des farines anciennes, des méthodes naturelles. Il fabrique un pain plus respectueux de notre santé et de l'environnement. Et les baguettes standardisées ont tendance à l'énerver un peu.
Il y a un truc dans lequel on va dans le mauvais sens, faire plus de pain le plus automatisé possible avec le mix B12 qui va aller avec la machine. Ensuite, on va façonner avec la forme du B12, cher monsieur, vous avez pu dire. Tout est automatisé. Dans 10-15 ans, il y a deux fois moins de boulangers et deux fois plus de robots. Et puis après, on va tous râler en disant le pain, il n'a plus aucun goût. Évidemment, il faut savoir aussi ce qu'on veut faire. Le pain, tel que moi, je l'envisage, je ne le retrouve pas dans ce produit-là. Il y a des produits qui sont utilisés qui sont parfois dangereux. Tout ce qui fait qu'il y a des nutriments qui vont faire que vous n'allez pas avoir refaim dans une heure, que le pain il va être digeste, etc., est totalement absent de ces pains-là. Alors qu'en revenant aux fondamentaux du pain, comme ce que moi j'ai fait avec la passion que j'ai du levain, ce genre de choses, on comprend qu'il y a un pain qui est nourrissant, qui est bon pour la santé, qui fait du bien à la planète. Évidemment, c'est bio. La bonne nouvelle, c'est que ça ne vaut pas forcément plus cher de faire du bon pain. Ça prend plus de temps. Alors, le temps, c'est de l'argent. Mais il y a, je pense que dans plein d'autres, comme dans plein d'autres domaines, c'est aussi une décision personnelle de savoir qu'est-ce qu'on achète comme pain, pourquoi on achète du pain, à quoi ça sert, et à qui on va l'acheter. Je suis plein de contradictions, mais au moins je sais où je suis et vers où je voudrais aller doucement. Et je pense que je vais dans la bonne direction en faisant ça. Et le bonheur que j'ai tous les matins à me lever et à aller faire du pain, mais je m'en étonne encore aujourd'hui. Je reviens voir ma femme, je dis « mais j'adore ce que je fais, mais qu'est-ce qui m'a pris d'avoir cette idée que maintenant, mais c'est génial et tout ». Et elle me regarde, elle s'en fout complètement, mais elle est morte de rire et puis elle adore le pain que je fais. Donc voilà, elle est toute contente, mais c'est un vrai bonheur. Et donc je pense qu'on a tous le droit de trouver ce qui fait qu'on se lève avec le sourire. Parce que c'est pas que une question d'argent, c'est aussi une question de... Il faut voir le coût total d'avoir un mauvais métier. Le coût total d'avoir un mauvais métier, il n'est pas que dans le fait de se foutre en l'air la santé, que d'avoir pas beaucoup d'argent et de devoir dire, ou d'être dans des structures de société où il faut dire oui à des gens à qui on n'aurait qu'une envie, c'est de dire non. Il y a aussi le fait de dire que plus c'est compliqué, plus on est en contradiction avec ce qu'on veut faire véritablement, plus on accumule et plus d'une certaine façon, et sans s'en rendre compte et en ayant bonne conscience, on fait payer les autres. Et donc ça c'était mon circuit vicieux à moi. Et là, j'en sors. Là, je suis content de ce que je fais. Donc, je dois être moins casse-pied. Je dois être un petit peu plus disponible. Ça va dans le bon sens. Il faudrait que chacun trouve son pain à lui. J'ai fait ce qu'on attendait de moi, en fait. C'est ça, l'un des fils de ma vie. C'était, à un moment donné, savoir ce que moi, j'attendais de moi. Et pas ce qu'on mettait comme espoir dans moi. Parce qu'en plus, ça ne me rendait pas forcément très heureux. Et ça ne rendait pas les autres heureux non plus. Donc je ne suis plus en train de me vendre moi, je me cache derrière mon pain. C'est mon pain qui cause. D'ailleurs, quand je suis venu aujourd'hui au studio, je me suis caché derrière un pain. Je vous ai offert un pain. Et tout de suite, vous m'avez fait un sourire. Et vous avez fait un sourire au pain. Et c'est ça l'idée, c'est de faire plaisir.
Maintenant, il y a peu de gens qui peuvent dire qu'ils travaillent par passion. Mais là, vous avez un passionné. Il est 10 fois plus passionné que moi. Ça se voit. Lui, quand il vous amène une miche de pain, il a les yeux qui brillent. Vous voyez peu de gens comme ça qui peuvent se réjouir de se lever le matin, aller travailler avec le sourire, rentrer chez lui et avoir la banane. Lui, il l'a tout le temps. Il l'a tout le temps. Il est impressionnant. C'est formidable.
La prochaine chose que j'aimerais changer dans ma vie, c'est apprendre à travailler pour de vrai avec les autres. Et c'est marrant que je dise ça au moment où je commence en fait à me retrouver à bosser seul. Mais ça me permet de me rendre compte à quel point j'ai bossé au-dessus des autres. J'ai bossé à côté des autres. Les autres ont bossé pour moi. Je suis en train d'essayer de comprendre ce que c'est qu'un vrai partage, une vraie relation avec quelqu'un, un vrai truc. Et donc je me rends compte du chemin qu'il me reste à faire. Donc prochaine étape, ouais, être vrai avec quelqu'un dans un boulot, dans un travail, et être vraiment en équipe. Et pas équipe Camille, suivez-moi, ou équipe Camille, je suis tout seul. Vraie équipe Camille plus quelqu'un. Est-ce que j'en serais capable? J'en sais rien, mais... quand je serai grand, dans 5-10 ans, ça me ferait bien plaisir.
Camille vit encore à 100 à l'heure et il continue à apprendre tous les jours, sur YouTube et ailleurs. Mais il a trouvé sa voie, sa vraie richesse. Et puisqu'on est entre nous, je peux vous le dire maintenant, le pain qu'il nous a offert, il était à tomber. Vous venez d'écouter L'Envol, un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Grande Contrôle. Pour découvrir d'autres histoires comme celle de Camille, abonnez-vous sur europe1.fr, Apple Podcasts et toutes vos plateformes habituelles. Et si vous avez envie de partager votre histoire, n'hésitez pas. Écrivez-nous à l'envol@ticketforchange.org. À très vite.